Chapitre 65. Vincent écarte une planche de la palissade et se faufile derrière son frère. Il sent sa gorge se serrer. Il redoute ce qu'il va découvrir. Pour le moment, s'il se fie uniquement à ce qu'il voit autour de lui, il peut encore croire que rien n'a changé. Mais ce n'est qu'une illusion. Il le sait. Le vieil entrepôt à grains a beau être dans son état habituel, une puissante odeur de brûlé flotte déjà dans l'air. Par habitude, les deux hommes traversent l'endroit en évitant de laisser des traces derrière eux. Mais cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Lorsqu'ils débouchent côte à côte dans le jardin, ils s'immobilisent, saisis par la même vision. Le pignon arrière de la pension est encore debout, mais c'est l'unique vestige de leur ancienne demeure. Il est noirci, réduit à sa plus simple structure, comme une carcasse rongée jusqu'à l'os. Toiture, cloisons et planchers sont effondrés ou partis en fumée. Les fenêtres ne sont plus que des rectangles béants à travers lesquels on voit le ciel d'un bleu idéal. Les oiseaux chantent. Leur joyeux pépiment a quelque chose d'incongru dans cette désolation. Sur le moment, Vincent leur envie cette capacité à accepter les choses simplement. Eux savent s'adapter aux circonstances, quelles qu'elles soient. Seul leur importe de rester fidèles à leur nature. S'il pleut, ils s'abritent et patientent. S'ils sentent un danger, ils s'éloignent. Si la tempête détruit leur nid, ils le rebâtissent. Continuez coûte que coûte, tant qu'ils en ont la force. Ce matin, ils gazouillent. Dans quelques jours, lorsque les murs auront refroidi, ils se poseront dessus. Ils finiront par nicher dans les brèches. En détaillant les décombres de sa maison, Vincent se demande si un homme est capable de vivre selon ses principes. Est-ce faire preuve d'une profonde sagesse ou d'une incapacité absolue à changer les choses? La végétation est en grande partie roussie, témoignant de l'effarante température atteinte par le brasier. Pierre avance entre les herbes qui crissent, incrédule face au spectacle. Autour d'eux, tout n'est que ruine. Les deux frères ne se parlent pas, mais les regards qu'ils échangent en disent long sur leur désarroi. La porte de derrière s'est effondrée. Il n'est plus nécessaire d'en maîtriser les mécanismes pour la franchir, il suffit de l'enjamber. Pierre montre à son frère la lourde charge qui s'est abattue dans le couloir. Est-ce le feu qui a détruit le piège, ou bien a-t-il été déclenché par l'un des assassins qui cherchait à envahir la maison? Son corps est peut-être en dessous, broyé et carbonisé. Ni l'un ni l'autre n'a envie de vérifier. Vincent s'aventure dans le couloir encombré d'un enchevêtrement instable de poutres calcinées. Débris consumés, résidus d'enduit, pièces de métal déformées par la chaleur et cendres forment des amas qu'il escalade avec prudence. Le plus infime des restes témoigne de la violence de l'incendie. Les frères progressent douloureusement dans cet enfer dont certains des blés fument encore. La cuisine est désormais à ciel ouvert. Seuls les murs en dur et le gros fourneau de fonte ont résisté à la fureur des flammes. Même l'évier s'est effondré sur lui-même. Il ne subsiste rien de la table ni des chaises. Le vase dans lequel Gabriel aimait mettre des fleurs n'est plus là, pas plus que l'étagère sur laquelle elle le posait. Pierre se baisse et ramasse le fragment d'une assiette brisée. C'est peut-être celle dans laquelle il avait goûté la première pâtisserie de la jeune femme. Vincent l'attend déjà devant la cheminée. C'est pour cela qu'ils sont venus. Il dégage les pièces de bois noircies qui pourraient entraver le mouvement du mur. Fonctionnera-t-il encore? Dans quel état sera leur cave? Vincent introduit sa main dans le trou de la brique manquante. La suie recouvre tout. Les parois sont encore tièdes. Il déclenche le mécanisme. Dans un frottement plus rugueux que d'ordinaire, celui-ci produit son effet et le mur s'écarte. Il faut cependant l'aider sur la fin de sa course. Les deux hommes s'engagent dans le passage, qu'ils prennent soin de refermer derrière eux. Ils descendent l'escalier en se préparant au pire. Ils s'attendent à un choc, mais ne peuvent imaginer quelle en sera l'ampleur. Quand ils arrivent en bas, ils sont frappés de stupéfaction. Leur repère est intact. Ils n'en croient pas leurs yeux. La tragédie qui a ravagé la pension a épargné la partie souterraine. Tout est en place. La vénérable cave moyenâgeuse a parfaitement résisté, alors que le bâtiment reconstruit par-dessus n'existe plus. Rien dans l'atelier ne témoigne du drame qui s'est joué, si ce n'est la température légèrement plus élevée. Incrédule, Vincent avance au hasard, comme dans un rêve, déambulant entre les ateliers. Pierre est obligé de palper les objets pour se convaincre qu'il n'est pas perdu dans un songe. Il pose la main sur l'étau de Conrad, soulève la pyrite restée sur la table centrale, soupèse un balancier de métal qu'il n'avait pas fini d'usiner. « Tu l'as toujours dit, » murmure-t-il, « cette partie-là est la plus sûre. » Vincent avance droit vers un grand bahut dont il ouvre les portes. À l'intérieur, l'automate de l'immeuble conçu par Robert Houdin que lui a légué l'horloger. Il ôte la housse de velours qui le protège et remonte doucement la manivelle sur le côté. Le cliquetis résonne tel qu'il l'a toujours fait, régulier, rassurant. Depuis la toute première fois, Vincent apprécie ce son familier, celui de la mécanique qui remplit l'office pour lequel elle a été conçue. Chaque rouage qui tourne, chaque cliquet qui s'enclenche porte la promesse que les choses vont se dérouler comme prévu, dans le délai voulu. Un idéal de maîtrise que la vie n'autorise jamais. Pierre s'approche. Il n'a pas souvent eu l'occasion de voir fonctionner cette petite merveille, mais il sait ce qu'elle représente pour son frère. Il s'assoit par terre, comme un enfant qui s'apprête à assister à une représentation. Quand il a fini de remonter le ressort, Vincent enfonce le poussoir de mise en route et vient s'installer à côté de son cadet. La femme étend son linge, l'homme met son chapeau, le chat gambade sur le toit entre les deux cheminées. Ils n'ont pas changé, leur vie est restée la même. L'irruption des flammes qui dansent produit ce matin un drôle d'effet sur les deux frères. Pierre y voit des réminiscences de la catastrophe qu'il a vécue. Son regard se brouille. Il est bouleversé par le drame que l'animation réveille en lui. Pour Vincent, la réaction est plus profonde. Il fixe les flammes qui s'agitent. Il voit l'attelage des pompiers qui arrivent et la grande échelle qui se déplie. Ce prodige mécanique représente beaucoup pour lui. C'est le souvenir de maître qu'il admire. Un lien réel avec un passé de plus en plus lointain, la manifestation du sentiment qui l'a conduit à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Les flammes disparaissent, l'attelage recule, le pire est passé. L'immeuble miniature ne porte aucune trace du sinistre qui vient de s'y dérouler. La femme et l'homme reprennent leurs activités comme si de rien n'était, le chat aussi. La réalité est bien différente pour Vincent et les siens. Même après que l'automate a achevé son cycle, les deux garçons restent assis en silence. Vincent se laisse peu à peu envahir par une émotion qui le déborde. Pour la première fois, la magie de l'automate n'a pas opéré. Pour la première fois, il a regardé ce petit chef-d'œuvre sans y voir autre chose qu'une brillante mécanique dénuée de sens. Il en souffre. C'est un adieu à une part de lui-même, le deuil d'une époque. Il n'a sans doute plus l'âge des illusions, il sait trop de choses pour se contenter de ce qui ne fait qu'amuser. Il songe tout à coup au passage secret de la maison de Nicolas Flamel, à celui immergé qui a coûté la vie à un homme. Ces mécaniques-là ne sont pas de simples démonstrations. Elles représentent bien plus qu'un tour de passe-passe destiné à divertir. Vincent se lève. Avec déférence et tendresse, il replace la housse de velours sur l'automate et referme les portes du buffet. Finalement, ce petit spectacle lui aura offert une autre étincelle. En le regardant pour la dernière fois, il vient d'accepter de dire adieu à son passé pour se préparer à affronter l'avenir.